Radio Free Gaza.
Radio.
Radio Free Gaza.
Free. Gaza. Un billet d'information intercommunautaire. Bellux.
Tous les jours de la semaine, de 17h à 17h30, et le week-end, de 15h30 à 16h.
En direct sur Radio Air Libre, 87.7 FM.
Rediffusé sur Radio Panique, 105.4 FM, à Bruxelles.
Une émission qui fait le lien entre la flottille internationale pour Gaza et vous.
Retrouvez les podcasts sur le www.radiofreegaza.net.
Bienvenue à Radio Free Gaza. Bienvenue à Radio Free Gaza pour le 18e épisode. Bonjour Guillaume, bonjour Stéphanie et bienvenue à tout le monde.
Et bienvenue Hans.
Merci. Et ok, donc aujourd'hui, on a un problème pour avoir un direct avec quelqu'un sur le bateau. Il y avait des candidats mais qui sont malades, le mal de mer. Et il y en a d'autres qui sont très occupés. Donc pour l'instant, bon, pour aujourd'hui, on va laisser ça comme ça. Par contre, nous avons un entretien. Notamment avec son nom est compliqué, Keda, elle va dire son nom, Keda qui travaille comme chercheuse à l'ULB, qui va nous parler des différentes cours internationales, des tribunaux internationaux, de droit international, puisque c'est un peu nébuleux pour moi, mais je ne comprends pas très bien, je pense que je ne suis pas le seul. Aussi parce qu'on voulait poser la question. Imaginons que Netanyahou ou un de ses complices met le pied dans un de nos pays. Comment est-ce qu'on peut arriver à le mettre derrière les barreaux? Comment est-ce que ça marche? Donc, pour comprendre la réponse à cette question, il fallait d'abord répondre à une autre question. C'était c'est quoi tous ces tribunaux de droit international?
Oui, c'est ça. Et ces réponses sont très claires. Sont très éclairantes, je trouve.
Ok. Alors, je vous souhaite une bonne écoute.
Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter brièvement?
Oui, bien sûr. Bonjour. Donc, je m'appelle Keda Janaralieva et je suis chercheuse doctorante au Centre de droit international, donc en droit international, et je travaille plus particulièrement sur les situations d'occupation prolongée.
D'accord. Alors, on vous a contacté pour nous parler un peu de la question des différents tribunaux internationaux qui existent, histoire d'avoir une clarification sur leurs compétences et comment ça fonctionne.
Alors,
c'est
oui,
une grande question.
En effet, concernant la situation en cours en Palestine, il y a actuellement plusieurs cours qui sont saisies en parallèle. C'est vrai qu'il arrive parfois qu'elles soient confondues. C'est normal, hein, ça arrive. Mais donc, il y a tout d'abord la Cour internationale de justice qui, elle, il y a deux pans. Là. Soit la Cour internationale de justice rend des avis consultatifs. Donc là, c'est un organe qui est autorisé à le faire par la Charte des Nations Unies qui va venir poser une question à la Cour internationale de justice et puis la Cour va répondre. Elle l'a fait pour la Palestine, elle l'a fait en 2004, c'était l'avis sur le mur. Et elle l'a fait encore tout récemment, le 19 juillet 2024. Là, c'était plus généralement sur les politiques et pratiques d'Israël et sur les conséquences de ces politiques et pratiques sur le statut de la présence d'Israël en Palestine. Et la Cour conclut que la présence israélienne en territoire palestinien est illégale. Donc ça, c'est pour le volet avis consultatif. Mais la Cour connaît aussi un volet plutôt type contentieux d'État contre un autre État, là pour discuter d'une potentielle violation d'une règle de droit international à laquelle un État est tenu. Mais donc, il faut qu'elle ait compétence. La Cour n'a pas compétente pour toute violation du droit international. Ici, par exemple, elle connaît l'Afrique du Sud a intenté une affaire contre Israël devant la Cour. Et cette affaire se fonde sur la Convention contre le génocide de 1948, puisque cette convention comporte une disposition qui permet de saisir la Cour dans certains cas. Et Israël n'avait pas émis de réserve, et donc on a pu aller devant la Cour à cet égard-là. Ensuite, il y a aussi la Cour pénale internationale. Donc ça, c'est tout autre chose, puisque la Cour pénale internationale, elle ne juge pas des États, mais bien des individus. Donc c'est du droit pénal, du droit international pénal. Et donc là, la Cour pénale internationale, elle a compétence plutôt pour 4 crimes spécifiquement, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le crime de génocide et le crime d'agression. Et ici, ce qui se passe, c'est qu'il y a de la petite popote interne. Une fois que le procureur pense que, d'abord, il faut ouvrir une enquête sur une situation. Là, la situation en Palestine, le bureau du procureur a ouvert une enquête depuis 2021, il me semble. Et là, le procureur a récemment demandé à la chambre préliminaire de la Cour pénale d'émettre des mandats d'arrêt à l'encontre de toute une série de personnes, ce qui a été fait encore, vous le savez sans doute, très récemment, en ce compris à l'égard de Netanyahou pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et donc là, ces mandats, pour l'instant, c'est là où on en est. Les mandats sont émis, puisque on attend que la personne, ici Netanyahou, soit arrêtée pour ensuite être amenée devant la Cour pénale internationale à La Haye.
Ok. Il y a aussi... Un tribunal pénal international, ce serait une possibilité éventuelle ?
Ce serait une possibilité. On pourrait toujours. Enfin, les États peuvent encore décider entre eux de créer un tribunal. On le voit par exemple pour la Russie actuellement, pour ce qui se passe pour l'invasion et l'agression de la Russie en Ukraine. On pourrait aussi imaginer que le Conseil de sécurité le fasse. Donc le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui lui peut imposer certaines mesures aux États. Mais donc là, tout va dépendre de la volonté politique finalement, mais c'est une possibilité. Après, le but, puisqu'on a cette Cour pénale internationale qui est saisie, c'est plutôt de donner du poids à celle-ci.
Oui, de la privilégier par
c'est
rapport...
Ça. D'accord. Justement, pour avoir cette volonté d'application universelle de certaines valeurs.
D'accord. Une autre question, c'est la loi de compétence universelle en Belgique, ou ce qu'il en reste. Est-ce qu'elle pourrait éventuellement être aussi une possibilité d'action ?
Alors c'est vrai que fut un temps en Belgique, nous avions une loi universelle assez étendue, mais ce qui avait été plutôt critiqué, puisque ça pouvait donner l'impression que la Belgique en fait faisait un peu le juge partout dans le monde. Et donc cette loi a été très fortement restreinte et les conditions sont tellement strictes actuellement que on va dire que les possibilités pour qu'elle soit réellement mise en place sont très restreintes. Particulièrement si on parle ici alors de Netanyahou, puisque à l'égard de la Belgique, il y a une immunité à respecter, l'immunité du chef d'État de Netanyahou entre la Belgique et Israël.
Ah oui, d'accord. Donc, ma question, du coup, ça nous amène à ma question suivante, qui est, imaginons que Netanyahou vienne en Belgique. D'accord ? Il est invité, il vient. Qu'est-ce qui devrait se passer ou qu'est-ce qui pourrait se passer pour qu'il se retrouve soit arrêté, soit concerné par une de ces cours ?
Alors, si Netanyahou arrive en Belgique, ce qui se passera certainement, puisqu'en fait, la Belgique est partie au statut de Rome, qui est le statut fondateur de la Cour pénale internationale. Donc, elle est tenue par un devoir de coopération avec la Cour pénale internationale. Ce qui se passera certainement, c'est que la Cour pénale, une fois qu'elle sera au courant, comme c'était par exemple le cas pour la Hongrie tout récemment, que Netanyahou risque de venir, elle va émettre une requête d'arrestation et de remise, ou soit d'arrestation provisoire dans des conditions d'urgence, à la Belgique, enfin aux autorités compétentes en Belgique. Ici, ça se passe plutôt du côté du ministre de la Justice en Belgique, parce qu'il y a une loi de 2004 en Belgique qui régit la relation entre la Belgique et la Cour pénale internationale. Et donc, elle va émettre une requête à la Belgique en disant « Ah ben voilà, vous voyez, Netanyahou est censé arriver à cette heure-là, voici le mandat d'arrêt, voici tous les documents qui sont requis dans votre droit international, tout ce qui vous est nécessaire pour que vous puissiez arrêter la personne, veuillez l'arrêter et nous la remettre. » Donc ça, c'est ce qui devrait se passer en théorie. Et là, ce ne serait pas la Belgique qui jugerait Netanyahou, puisque ce n'est pas le cas. Ici, c'est simplement de le transférer à la Cour pénale internationale qui, elle, dans son statut, indique bien que les immunités ne peuvent pas lui être opposées.
Donc, et qu'est-ce qui pourrait empêcher ça ?
C'est une question de volonté, encore une fois. Maintenant, là, l'avantage, c'est que c'est dans la loi, en tout cas de 2004, que je mentionnais il y a quelques secondes, c'est pas tant l'exécutif, c'est plutôt le judiciaire. Donc, en principe, quand les autorités judiciaires reçoivent cette requête, elles n'analysent pas le fond. Donc elles ne se disent pas, ah oui ou non, en fait, il y a vraiment crime, on ne pense pas qu'il y a crime de guerre finalement, ce n'est pas ça. Elles vérifient juste, si vous voulez, le côté un peu plus procéduraux, les droits aussi à respecter. Mais c'est un travail assez minimaliste, ce n'est pas un travail de fond. Donc normalement, une fois que cette requête est faite, la Belgique, en vertu de son devoir de coopération, doit arrêter la personne. Après, voilà, c'est à mon sens avant tout une question de volonté politique, parce qu'on l'a vu avec la France qui dit qu'elle n'arrêtera pas Netanyahou justement en raison de l'immunité. Il se pourrait que la Belgique dise la même chose.
Oui, c'est ça. Donc en jeu, il n'y a pas que la question de la... de la procédure judiciaire seule, qui existe et qui peut être mise en œuvre, mais qui peut aussi être arrêtée par le pouvoir politique, c'est ça, si je comprends bien?
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, notre procédure en Belgique, elle est assez claire. Enfin, évidemment, elle est compliquée, mais en tout cas, elle est là, c'est un pays qui a bien mis tout cela en œuvre. Mais oui, tout va dépendre de ce que la Belgique veut faire au moment, et puis ça dépendra sans doute de où on se trouve politiquement au moment où Netanyahou arrivera en Belgique, s'il vient un jour.
Mais donc, il y a pas d'obligation sur les États pour respecter cette procédure judiciaire.
Normalement, si, ils ont l'obligation de coopérer avec la Cour. Donc si la Belgique ne coopère pas avec la Cour, ce qui arrivera sans doute, c'est arrivé avec la Mongolie pour la Russie, enfin pour Vladimir Poutine, c'est que la Cour pénale internationale va renvoyer l'affaire à ce qu'on appelle l'Assemblée des États parties, qui après, elle, prend une sanction contre l'État qui n'a pas respecté son obligation de coopération. Donc pour l'instant, on n'a pas encore réellement d'exemple de ce que seraient ces sanctions, mais à mon sens, ce seront plutôt des sanctions relatives au fonctionnement interne, par exemple, certains peut-être droits de vote lorsqu'il y a une discussion au sein de la Cour pénale internationale, enfin, des discussions, par exemple, sur le statut, que sais-je, mais l'idée, ce n'est pas d'exclure des membres de la Cour pénale internationale, évidemment, il faut favoriser leur présence et leur coopération. Mais donc, en principe, les États ont l'obligation de coopérer avec la Cour.
D'accord. Et donc, dans quelle mesure est-ce qu'on peut... Donc, ça, c'est pour la Cour pénale internationale. Mmh. Mais dans quelle mesure est-ce qu'on peut imaginer... Je sais que parfois, dans d'autres cas que la question de Gaza ou la Palestine, il est arrivé qu'il y ait soit des associations, soit des victimes de crimes de guerre commis ailleurs, dans un autre cadre, qui déposent une plainte contre un pays. À ce moment-là, je pense, et qui essaye d'activer cette procédure-là. Mais alors là, ça se retrouve devant les tribunaux nationaux, c'est ça?
Alors là, ça se retrouverait devant les tribunaux nationaux, mais à mon sens, plutôt à l'égard d'une personne.
Ok.
Ou par exemple à l'égard de l'État belge, si on considère que l'État belge coopère. Vous savez que l'État de Belgique ne peut pas aider ou assister à la violation de certaines normes de droit international. Donc ça, je sais qu'il y a un peu des procédures en cours actuellement. Donc à voir ce que ça va donner. Mais encore une fois, si ces plaintes sont déposées contre des personnes, il y a toujours la question des immunités qui se pose.
Oui, c'est ça.
D'un point de vue national.
Oui, excepté devant la CPI.
Devant la Cour pénale internationale. Ou imaginons que le Conseil de sécurité crée un tribunal devant ce tribunal.
D'accord.
Bon, je ne pense pas que le Conseil de sécurité va penser avec le veto américain.
Ça paraît compliqué.
Pas,
ouais. Mais c'est juste.
Mais sur papier,
en
ça
théorie,
existe.
Oui, voilà, en théorie. J'ai une dernière question. Ouais. Et ça concerne plutôt la question des soldats israéliens. On a vu déjà qu'il y avait des tentatives de procédure dans certains pays qui étaient intentées par rapport au retour de ces soldats dans les pays dans lesquels ils habitent, après avoir fait la guerre, avoir participé à la guerre à Gaza, entre autres. Qu'est-ce qu'il en est?
Alors là, tout dépendra du droit national de chaque État. Par exemple, en Belgique, si on a un soldat, par exemple, belgo-israélien qui reviendrait en Belgique, à partir du moment où il a la nationalité belge, à vérifier dans la loi belge, mais on pourrait imaginer que la Belgique se saisisse de ce cas, enfin que les tribunaux belges se saisissent de ce cas, puisque là, en tant que, entre guillemets, simple soldat, les questions d'immunité seraient bien, ne se poseraient pas comme elles peuvent se poser pour des chefs d'État. Donc ça, c'est une possibilité. Maintenant, il faut voir pour chaque État ce que dit le droit national concrètement. Et il me semble que là, il y avait eu des affaires en Belgique avec le festival Tomorrowland et des personnes qui avaient été identifiées. Et à ma connaissance, ce que la Belgique a fait, c'est qu'elle a renvoyé ça à la Cour pénale internationale. Donc ça, c'est aussi quelque chose que les États peuvent faire, puisqu'ils disent la Cour est saisie de la situation en Palestine. C'est comme ça que la Cour pénale internationale la désigne. Eh bien voilà, dans notre devoir de coopération, on renvoie ça à la cour.
Ouais. Et donc, à votre avis maintenant, alors personne n'a de boule de cristal, hein, on est d'accord, mais à votre avis, est-ce qu'il y a une certaine probabilité de voir un jour aboutir une de ces procédures dans le cas présent?
Ben, en tant que chercheuse en droit international, j'espère, parce que je crois en mon domaine, que ce soit pour Netanyahou, que ce soit pour Poutine ou plein d'autres. Maintenant, ce sera vraiment, tout dépendra des configurations, en fait. Actuellement, je ne pense pas que ce sera le cas. Je l'espère pour les victimes avant tout, puisque c'est important pour elles aussi que justice soit rendue, même si la justice peut être rendue de différentes manières. Maintenant, je pense que le fait qu'il y ait déjà eu ces mandats d'arrêt sont déjà un grand signe, même dans ce qu'on peut attendre des autres États, puisqu'une fois qu'il y a ces mandats d'arrêt, c'est compliqué pour les États. Les autres États diront « mais on ne savait pas qu'il y avait des violations du droit international ». Donc même pour nous, en tant que membres de la société civile, c'est un outil intéressant qu'on peut mobiliser pour demander tel ou tel comportement de la part de nos États. Et puis, concernant ensuite l'affaire de la Cour internationale de justice, donc ça, on aura une décision probablement que dans de nombreuses années, mais à voir. Je pense qu'en tout cas, elle a un dossier très, très sérieux à examiner. À mon sens, en tout cas, les preuves ne manquent pas.
Oui, d'accord. Un grand merci.
Ben, merci à vous pour l'invitation.
Au revoir.
Au revoir.
Merci.
Il y a un petit théâtre ici. Hein.
Voilà, c'était donc l'entretien avec Kedja Djanralieva, hein, je l'ai dit en une fois, qui travaille au Centre de droit international à l'Université libre de Bruxelles. Voilà. C'est presque la fin de l'émission. Pour demain, ce n'est pas tout à fait clair ce qu'on va faire. En fait, on avait rendez-vous avec Rami Abu Jamous, qui est un journaliste palestinien qui habite à Gazaville, qui écrit un journal de bord depuis février 2024, je pense, dans la revue en ligne Orient 21, qui est une revue en ligne en français et en anglais sur le monde arabe et le monde musulman. Je vous le recommande, franchement, c'est très intéressant. Et sur ce site, en fait, il a un journal de bord de Gaza. On a regroupé un certain nombre de ces bulletins aussi dans un livre qui s'appelle Journal de bord de Gaza. Voilà. C'est les éditions Libertalia. Et on essaye de l'avoir, mais ça ne marche pas pour l'instant. On sait que c'est très difficile pour l'instant à Gazaville pour les gens, donc on ne sait pas. Mais c'est tout à fait compréhensible que ça ne marche pas, en tout cas. Donc on essayera pour demain, mais c'est encore à voir. Voilà.
Peut-être juste quelques nouvelles rapidement avant de se quitter. Il y a maintenant 47 bateaux répertoriés dans le tracker public de la flottille qui se trouve sur le site globalsumutflotilla.org/tracker. Donc qui est accessible tout à fait publiquement. Et ça veut dire que les bateaux ont quitté la Grèce pour ceux qui devaient encore le faire. Donc on en est à 47. Et la deuxième chose, c'est que 16 pays ont émis un communiqué commun en demandant la protection de la flottille publiquement et en demandant le respect du droit international. Dans ces 16 pays, il y a 3 pays européens qui sont l'Espagne, la Slovénie et l'Irlande. Ça vaut la peine de les citer parce qu'effectivement, les autres sont aux abonnés absents et donc la Belgique ne l'a pas fait.
Oui. Autre détail, si on parle de la Slovénie, ils viennent d'acheter des armes israéliennes.
Oui, l'un n'empêche pas l'autre. Hein.
Oui, exactement. Voilà. Donc, c'est la fin de l'émission.
Oui, pour aujourd'hui.
Oui. Donc, à demain.
À demain.